this kind of music.
Les trans, les PD, les Gwyn et leurs alliés déviants
prennent l'antenne sur Radio Canu,
la plus queer des radios.
Premier temps, on va lire des textes autour de ce grand concept de l'amour et de la Saint-Valentin. Tiens, c'est demain, alors on s'est dit que peut-être ça vaudrait le coup de revenir dessus. Et ensuite, on va écouter une conférence de Louis-Georges Thin, un bout de cette conférence qui avait lieu à la bibliothèque de la Part-Dieu il y a quelques semaines. Voilà, et enfin, on va parler de déterminisme biologique, en gros, comment l'hétérosexualité est ancrée au plus profond de nos têtes et de la société.
Voilà, donc on va commencer par les infos du jour et de la semaine, et même du mois, ça dépend. Alors d'abord, une mauvaise nouvelle, puisqu'en Espagne, la ministre de la Défense veut réviser le code de l'armée pour permettre à des trans FTM opérés de pouvoir l'intégrer. Ainsi, donc c'est une citation, des hommes n'ayant pas de pénis et souffrant d'absence, de perte ou d'atrophie des testicules pourront désormais augmenter les rangs de l'armée espagnole. Et du coup, c'est un peu une déception. Il est loin le temps où on parlait de désertion et de manière d'échapper à l'armée. Et ça fait surtout mal de voir des trans en manque d'intégration aller chercher une reconnaissance jusque chez les gens les plus pourris, c'est-à-dire l'armée ou la police. On continue pour ces informations un peu internationales. C'est arrivé près de chez nous, c'est en Croatie. Une information un peu glauque, puisqu'une jeune lesbienne hospitalisée illégalement en institution psychiatrique pendant plusieurs années vient de sortir. C'est une jeune croate qui a été hospitalisée de 16 à 21 ans, donc pendant 5 ans, en raison de son orientation sexuelle. Et du coup, les organisations LGBT croates réclament aujourd'hui justice. Donc elle a été hospitalisée en institution psychiatrique par ses parents quand ils ont découvert que leur fille avait une petite amie.
Sympa,
ouais, et refusait son orientation sexuelle. Et donc, au cours de son hospitalisation, Anna, donc c'est la jeune croate, a subi un traitement proprement inhumain, mais ça, c'est pas nouveau pour les hôpitaux psychiatriques. Et donc, il a aussi été établi qu'aucun élément légal n'avait jamais existé pour justifier son hospitalisation forcée, en particulier après l'âge de 18 ans. Et donc, en ce moment, les associations LGBTIQ sont en train de se battre au niveau judiciaire pour que soit reconnu les erreurs et les violences infligées à Anna pendant toute son adolescence. Et puis elles sont aussi en train de se rassembler pour l'aider maintenant à vivre, à entreprendre des études, etc. Puisque c'est 5 ans de sa vie qui sont partis en l'air, quoi.
T'as pas une info un peu plus qui remonte un peu le moral, là?
Pas encore, hein, mais ça va venir, on aura une petite rubrique pour en rigoler tout à l'heure.
Ah cool.
Et ouais, non, je continue sur les infos un peu comme ça, un peu moins glauque, mais toujours dans le même ton. C'est-à-dire que là, on va parler de don du sang. Donc on est au courant qu'il y avait des campagnes énormes en France pour appeler les gens à donner leur sang, parce que la France manque absolument de donneurs. Et puis on sait aussi, en tout cas dans le milieu transpédéguine, on sait que le don du sang est complètement interdit et fermé aux trans et aux homos, et également d'ailleurs aux travailleuses, travailleurs du sexe. Et du coup, SOS Homophobie avait tenté une nouvelle fois de convaincre les ministres d'ouvrir le don du sang aux homos, notamment. Donc SOS Homophobie avait lancé une pétition, et ce à quoi la ministre Roselyne Bachelot a répondu: l'interdiction du don du sang sera levée par les homosexuels masculins dès que la prévalence de ce groupe de l'infection par le VIH se rapprochera de celle des hétérosexuels. Alors bravo Bachelot, hein, on peut l'applaudir pour une telle réflexion. Donc on rappelle que le formulaire du don du sang laisse entendre qu'avoir des relations sexuelles rémunérées, ou avoir des relations sexuelles avec des personnes du même sexe, ou même avoir plusieurs relations sexuelles avec des personnes différentes, entraîne donc un risque plus important de contracter le sida. Donc déjà, moi je voudrais revenir sur l'amalgame qu'il y a entre séropositivité et homosexualité qui est proprement homophobe. Et puis aussi, là, à un moment donné, la ministre et je pense toutes les personnes qui font ce truc de don du sang parlent de population à risque et non de pratique à risque. Or, je pense qu'en fait, il n'y a pas plus de risque dans la baise homo que dans la baise hétéro à partir du moment où on utilise du matos de prévention. Et en plus, à rajouter comme ça qu'en cette manière, les soirées transpédéguines et gays et lesbiennes sont plus fournies en capote, digues dentaires, gants à latex, etc. que des soirées hétéro.
Non mais attends, c'est clair, tu n'as pas de matos de prévention des risques dans les fêtes de mariage, quoi.
Ah non, aucun.
Bref. Nous avons un appel.
Ouh là là. Donc j'ai jusqu'à continuer. Donc tu pourrais couper ton micro, on t'entend.
Désolé, en fait, on a l'antenne.
En France, on continue en France où
Excusez-moi, c'était une fan de nous qui nous félicitait de cette superbe émission.
C'est vrai.
Ouais.
Tu continues ? Non, je continue.
Non, vas-y, okay. Continue.
En France, donc en fait, c'est un PD égyptien qui est menacé d'expulsion. Donc, je sais pas, il y a pas mal de mails qui ont circulé ces derniers temps pour essayer d'appeler le préfet de police de Paris pour qu'il change d'avis, pour qu'il le libère. En fait, Saad, qui est le PD égyptien, a été placé au centre de rétention de Ménil-Amelot le 29 janvier. Et en fait, il a été libéré il y a quelques jours pour des raisons de santé, parce qu'il avait entamé une grève de la faim, mais c'est pas une victoire pour autant, parce qu'il est toujours pas régularisé, donc ça veut dire toujours potentiellement expulsable. Et sachant que Saad avait demandé le statut de réfugié en France après des mutilations qu'il a subies en Égypte par sa famille du fait de sa sexualité. Mais voilà, ça semble pas assez important pour la France pour lui faire obtenir un statut de réfugié politique. Donc voilà, du coup, il faut voilà, juste rester vigilant vu que...
Oui, carrément. Et moi, je voulais faire un petit point par rapport aux plannings familiaux en crise en ce moment. Du coup, en janvier, notre fameux ministre du Travail, des Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité, j'ai nommé Brice Hortefeux, a voulu réduire les subventions du planning familial de 42% pour l'année 2009. Donc autant dire que les accueils info vont subir le même sort que celui de Marseille, qui a dû fermer fin décembre, puisque là-bas elle n'arrivait plus à payer le loyer. Donc moins d'argent aussi pour les informations autour de la sexualité dans les différents établissements scolaires. Donc là, on peut voir une politique du gouvernement pour laisser les idéaux de la famille hétéro et de la femme au foyer reprendre une place qui s'était, on va dire, si peu estompée quand même. Hein.
On peut le dire.
C'était vraiment pas ça non plus. Donc, un rendez-vous a été convenu avec le ministre le 19 février. J'ai lu ça hier sur le site du planning. Mais bon, autant dire qu'il faudrait pas attendre, faut pas être trop naïf et faut pas croire à un quelconque arrangement en faveur du droit des femmes à disposer de leur corps. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux subventions des assos ? C'est globalement de moins en moins de subs de partout. Et je trouve que ça permet de dire que les positions, en fait, elles deviennent plus simples. Ça devient juste résistance, quoi. On n'a vraiment plus rien à attendre des gouvernements puisqu'ils sucrent toutes les subventions. Du coup, c'est à nous de nous organiser et trouver de la thune. Donc gardons notre âge et on pourra s'organiser, peut-être s'auto-organiser et continuer à ce que des structures comme ça existent. Ouais. C'était le message positif du jour. Et ensuite, là, c'est une affaire de violence policière.
Tiens, tiens, tiens.
Avec insultes homophobes devant la justice. Donc ça se passe à Paris, la 29e chambre du tribunal correctionnel de Paris examine ce jeudi une affaire de violence policière remontant à cet été contre deux femmes qui ont subi coups, humiliations, insultes homophobes et sexistes pendant plusieurs heures. Une affaire restée ignorée des médias français, ça c'est
bizarre.
Pas étonnant. Donc l'affaire, c'est deux femmes qui se sont fait violemment agresser par des policiers lors d'une interpellation à Paris. plusieurs heures durant. Elles vont être victimes de coups, d'humiliations, d'insultes, de propos homophobes et sexistes. Alors qu'elles tentent de se porter assistance et de se réconforter au poste de police, les deux femmes seront notamment traitées de putes lesbiennes.
Bah tiens.
Voilà. Donc, après leur libération, l'une d'elles, l'écrivain espagnol Ilinès, va alerter Amnesty International, qui donnera un écho à cette affaire en Espagne, alors qu'elle restera étrangement ignorée des médias français. Bon, et ben maintenant, heureusement, on a notre rubrique « On en rigole ». Et la première, c'est « Vive la crise ». Alors, recension sexe. La crise économique dope nos comportements sexuels. Et oui, dans la crise, il y a ça aussi. La crise économique actuelle provoquerait une hausse importante de l'activité sexuelle, selon plusieurs indices. Une véritable sexualité de la récession, recession sex, selon les Américains, serait en train d'apparaître, entraînant ainsi infidélité et divorce accru.
Cool.
Pour les psychologues, cette chose s'expliquerait par le fait que les sentiments de peur ou de danger dopent notre libido. Ah, c'est marrant ça.
Ouais.
Concrètement, le 29 septembre 2008, date de l'effondrement de la bourse américaine, le principal sex shop de New York a connu une augmentation exceptionnelle de 25% de son chiffre d'affaires. Et un site majeur de rencontres gays américains a enregistré un record d'entrées inégalé sur son chat. En Europe, selon la presse anglo-saxonne, les ventes de préservatifs ont explosé en Angleterre au cours du dernier trimestre 2008, au plus fort de la crise économique.
Intéressant. Et deuxième partie de On en rigole, enfin deuxième info, c'est en ce moment à Londres ou en Grande-Bretagne, le mois de l'histoire LGBT. Et en fait, un drapeau gay a été décroché d'un immeuble de la police de Londres. Alors on raconte un peu comment ça s'est passé. Donc c'est le chef de la police londonienne qui a ordonné que soit retiré le drapeau arc-en-ciel qui flottait sur l'un des immeubles des services de police dans le cadre de cette manifestation. Oh là là.
Ça fait des ordres.
C'est ça. Donc selon le quotidien Daily Mail, le responsable se serait montré livide en découvrant la pose de ce drapeau. Et son retrait, bien sûr, est présenté comme une volonté de la police de Londres de ne pas laisser la politique interférer avec sa mission. Ça c'est entendu. On en a fini pour ces infos du jour et du coup on va un peu attaquer le thème de l'émission.
Oh, une petite chanson d'abord, non?
Une petite chanson. Eh ben ouais.
Pour couper chanson. Avec les infos.
Ça marche, c'est Bikini Kill, un groupe de Riot Girl, et c'est Suck My Left One.
voilà, on est toujours sur Radio Canu pour l'émission de La Déprave.
Sur l'amour et l'hétérosexualité. Donc, à propos, un jour de la Saint-Valentin, il nous a semblé intéressant de revenir sur ces deux concepts considérés aujourd'hui comme naturels, érigés en normes et piliers du système patriarcal et capitaliste, et c'est donc, on l'a dit, l'amour et l'hétérosexualité. Alors, en passant une petite gender blague, c'est quoi deux queers qui sont amoureux ?
Deux queers qui sont amoureux ?
Ouais.
Je sais pas.
Une transfusion.
Bon, merci,
ta-tadam,
merci.
Ta-tadam. Bon, on se...
J'enchaîne. Sérieux, là, les blagues, là.
Ah, c'est des gender blagues. En ce mois de février, plus particulièrement, il m'est impossible de me balader dans la rue sans qu'une affiche, un spot publicitaire ou une décoration de magasin vienne me rappeler que la normalité voudrait que je sois en couple exclusif avec une personne de sexe opposé et que je célèbre avec joie un jour par an un amour, qu'il soit réel ou fictif d'ailleurs, peu importe, pourvu que la moralité soit sauve et le commerce rentabilisé. Et à propos de la Saint-Valentin, il nous a semblé intéressant de vous lire un texte qui a été écrit par un collectif féministe, il me semble, et qui date d'à peu près 2003.
C'est parti, alors on commence à le lire ?
C'est ça. Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, partout, sur les murs, dans les revues, les journaux, à la télé, l'amour s'affiche et on nous insiste à acheter pour prouver notre amour. Enfin, un certain type d'amour. Si on est un homme, on nous propose d'offrir des sous-vêtements à notre copine. Si on est une femme, on nous propose de nous acheter des sous-vêtements pour s'offrir à notre copain.
Et si nous ne sommes ni des femmes objets, ni des mâles dominants, mais des gouines, des pédés, des bi, des trans, des célibataires, des hétéros hors normes, des non-consommatrices, finalement, on ne nous propose plus rien. L'imagerie développée à l'occasion de la Saint-Valentin est normative, mais aussi culpabilisante. Les messages publicitaires sont bien souvent à double sens.
Si vous ne voulez rien acheter, vous êtes sûrement un peu radin ou radine. Si vous êtes un homme et que vous n'avez pas de petite amie, vous êtes donc célibataire.
Ouh !
C'est sans doute que vous n'assurez pas. Vous n'êtes sûrement pas un vrai homme.
Si vous êtes une femme et que vous n'avez pas de petite amie, essayez de vous arranger, car c'est sans doute de votre faute. Sinon, vous finiriez vieille fille. Oh là là. Notre société vous fait comprendre que, en tant que femme, vous n'avez pas bien assimilé votre rôle de princesse passive et un peu niaise.
Si vous avez un petit ami du même sexe que vous ou plusieurs amours, vous n'êtes pas vraiment une Sainte Valentine ou un Saint Valentin. Enfin, si vous êtes un peu moins blond, blanc ou jeune que les couples dans les pubs, de nombreuses solutions existent. Chirurgie esthétique pour se croire sans rides, décapage de peau pour devenir plus blanche, régime amaigrissant, teinture...
La Saint-Valentin est un des emblèmes d'une société normative et marchande où seul le couple idéal, vivant un amour idéal et consommant à outrance, est reconnu.
Les sentiments et le bonheur ne sont pas liés à un seul modèle de relation, le couple, et de désir, l'hétérosexualité machiste. Luttons contre ce modèle unique et discriminant, vivons notre sexualité comme nous le désirons.
Reconnaissons la diversité des relations, déconstruisons les stéréotypes et vivons librement notre sexualité. Et voilà, ça c'était du coup ce chouette tract. Il y a encore un appel, alors j'ai qu'à voir qui est-ce qui essaye de nous appeler.
Ah, encore des fans, super.
Allô ? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça ? Oui, mais je suis désolée, là, en fait, je suis à l'antenne. Oui, c'est ça. Au revoir.
Ah là là, décidément.
Oh là là.
Qu'est-ce qu'on est demandé.
C'était complètement brûlant, quoi. elle m'a tout émoustillée, quoi. Fou. Du coup...
On enchaîne avec...
C'est fou, hein, comment ça peut être fort que dans une émission, on parle d'amour et de Saint-Valentin et des... Et des appels complètement fous à l'antenne. Donc moi je voulais aussi vous lire un texte qui sort d'une, du moins un extrait d'un texte qui sort d'une brochure contre l'amour qui s'est faite il y a quelques années, je sais pas exactement la date. Donc, c'est un texte qui s'appelle « L'économie de l'amour ». La culture de l'amour fait naître toute une économie de l'affection. Car, idéalisant et rarifiant à la fois les échanges affectifs, elle crée une misère et donc une demande. Notre culture idéalise l'amour. L'amour, c'est tout. Tous les échanges affectifs réunis. Tous les biens affectifs d'un seul coup. C'est une mine, un trésor affectif. L'amour devient donc une forme de relation extrême, rêvée, désirée à outrance. Quand on ne l'a pas, on veut absolument l'avoir. Quand on l'a, on a une peur absolue de la perdre. Et quand on ne l'a plus, on meurt, ou presque. Mais en même temps, la définition de l'amour est si pointue, si exigeante, qu'on peine à la rencontrer. Il faut avoir tous les biens affectifs de l'amour à la fois, ou n'en avoir aucun, pas d'entre-deux. Il faut entrer dans toutes les catégories sociales prévues pour l'amour. Pas de tendresse sans couple exclusif, pas de couple sans princesse charmante, pas d'intimité sans pacte éternel. Or, toutes ces conditions sont tellement restrictives, elles font de nous des êtres tellement exigeants que les possibilités de vivre des échanges affectifs deviennent rares. Là commence la misère affective. Là où il y a une économie, une rareté, une misère, le capitalisme se précipite. Il débarque d'abord avec tous ses principes, représentations, comportements. La rareté d'un bien inspire à toute la peur d'en manquer, la compétition pour l'acquérir, la propriété pour ne pas le laisser filer. Voilà ce petit extrait. Et du coup, on va passer une chanson que je... C'est Candy Cane. Et en fait, on avait déjà écouté une chanson de Candy Cane pour l'émission autour de l'érotisme, qui s'appelait Masturbation Blues. Et là, en fait, c'est une chanson qui s'appelle Hey Mister. Et en fait, c'est pour dire mec, et ben ta copine, on a couché ensemble hier soir. T'y croyais pas, et ben si. Voilà, c'est parti. You sure look cute, greasy hair. Hey mister, you sure look cute, greasy hair, and that slick suit suit. The one I wanted by your side, she was my baby last night. Hey mister, you sure can glide across that dance floor smooth and wide. There's some moves you haven't tried, she was my baby last night. Admit it, but she spent all night with me. If you can't keep her busy, mister, you might as well set her free. Hey, mister, she looks content, and we both know she's heaven sent. But look out when she's out of sight, she was my baby last night.
Et voilà, on est sur les ondes de Radio Canu dans l'émission de La Déprave sur l'amour et l'hétérosexualité. Donc on va maintenant enchaîner un peu avec le petit reportage de Louis-Georges Tain. Donc si l'amour et l'hétérosexualité comme normes contemporaines sont louées et encouragées aujourd'hui par l'Église et l'éducation, ça n'a pas été toujours le cas. Et donc dans la conférence de Louis-Georges Tain, qui est un universitaire qui a notamment écrit le dictionnaire de l'homophobie et a organisé la journée contre l'homophobie, c'était lors d'une conférence pour présenter son ouvrage sur l'histoire de la culture hétérosexuelle, il nous raconte l'émergence de l'amour et de l'hétérosexualité dans la culture et les représentations à partir du XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui.
qu'effectivement, qu'il s'agisse de l'éthique de la chevalerie, qu'il s'agisse de l'éthique de la courtoisie, ou qu'il s'agisse de l'éthique des hommes de science et des médecins en l'occurrence, les puissances dominantes de la société se sont opposées largement à la culture hétérosexuelle. Et dans ces conditions, le fait que la culture hétérosexuelle soit devenue la norme, et vous voyez bien que je ne parle pas des pratiques, je ne parle que des cultures et des représentations. Parce que tous ces médecins, ils avaient bien sûr des pratiques hétérosexuelles. Ils étaient mariés, etc. Mais on parle non pas des pratiques, qui sont majoritairement hétérosexuelles, mais des normes et des représentations culturelles qui, au départ, ne l'étaient pas. Avant le XIIe siècle, on le voit, ce n'était pas du tout l'enjeu. Et on voit comment la culture hétérosexuelle dominée à l'époque est devenue dominante. Et c'est pourquoi cette évolution, cette hégémonie, même aujourd'hui, loin de m'apparaître comme une chose évidente, m'apparaît au contraire comme un véritable paradoxe. La chevalerie et l'Église s'opposent à la culture du couple homme-femme. Pour l'Église, c'est un problème de sexe. Pour les chevaliers, c'est un problème de genre. Pour les chevaliers, il y a lieu de craindre qu'ils soient moins virils, que leur genre soit mis en cause. Pour l'Église, ce n'est pas une question de genre, c'est une question du sexe. Le sexe risque de détourner l'homme de sa vocation spirituelle. Donc on voit que pour des raisons très différentes, de sexe ou de genre, les deux ordres dominants de la société d'Ancien Régime, le premier et le deuxième ordre, se sont opposés à la culture du couple homme-femme, mais sans succès. En effet, les médecins, eux aussi, considèrent que l'amour est une chose malencontreuse, l'amour homme-femme en l'occurrence. L'amour entre hommes n'est pas un sujet, la question ne se pose pas tellement, entre femmes encore moins. Donc l'amour, quand on dit l'amour en général, c'est l'amour entre hommes et femmes. Or, cela est fâcheux. Alors, il s'inspire parfois des arguments de l'Église. Certains disent, c'est fâcheux parce que c'est un peu immoral. Donc on voit qu'il y a un côté religieux dans cet argument. Ou alors ils disent, parce que cela affaiblit les hommes. Et on voit bien que ça, c'est l'argument plutôt chevaleresque. Les hommes sont moins virils quand ils sont amoureux des femmes. Bon. Mais surtout, les médecins innovent en proposant une réflexion proprement médicale sur l'amour, qui pour eux est évidemment une maladie. Vous connaissez cette maladie, c'est la maladie d'amour. Vous savez comment elle court. Et donc, les médecins vont développer toute une théorie pour expliquer la maladie d'amour. Alors, qu'est-ce que l'amour, me direz-vous ? Vous êtes souvent posé cette question, j'en suis sûr. Vous êtes venu pour avoir la réponse ici, vous l'aurez. Alors, l'amour est échauffement. D'ailleurs, quand on est amoureux, on est tout chaud. C'est une inflammation qui survient en général par les sens, en général par la vue. Par exemple, vous vous promenez innocemment dans la rue. Ne voilà-t-il pas qu'une personne agréable se présente à votre vue ? Ses yeux lancent des rayons. Ces rayons atteignent vos yeux. Vos yeux sont échauffés. Cette chaleur se transmet aux nerfs, des nerfs jusqu'au foie. Et le foie qui recueille le sang est tout à fait échauffé. Donc le sang bouillonne. Et voilà pourquoi vous êtes effectivement tout chaud. C'est embêtant. Alors, les médecins essayent donc de guérir cette maladie. Alors, ils proposent un certain nombre de choses. Mais quels sont les symptômes de la maladie d'amour ? Comment fait-on pour savoir si on est malade ou pas ? Eh bien, le premier symptôme, par exemple, c'est l'apparence générale du patient. Vous avez remarqué sans doute que les amoureux sont souvent maigrelets. Si votre voisin est un peu enrobé, sans doute il n'est pas amoureux. Si en revanche il est un petit peu maigre, peut-être est-il amoureux. Et pourquoi ? Parce que les amoureux tout entiers occupés par la personne aimée ne songent plus à s'alimenter. Donc ils maigrissent, évidemment. C'est très dangereux, on finit par mourir si on ne fait pas attention. Alors, mais ils mangent quand même. Ils mangent quand même, il ne faut pas exagérer. Mais le problème, c'est que normalement, la digestion se fait dans l'estomac, bien sûr, et nécessite une certaine chaleur. Et cette chaleur produit une vapeur qui s'appelle anatibiase. Et cette vapeur qui monte de l'estomac et parvient jusqu'au cerveau amollit les nerfs, et ces nerfs tout ramollis font que vous vous assoupissez. Et vous aurez noté qu'après un bon repas, souvent, vous avez envie de faire la sieste. Ah ben voilà. Or, le problème, c'est que les amoureux ne mangent pas, donc ils ne produisent pas d'anatimiase, et donc ils ne peuvent pas s'endormir. C'est pour ça qu'ils sont insomniaques. voyez, souvent, ils passent la nuit entière, ils n'arrivent pas à dormir, ils sont troublés. C'est à cause de l'absence d'anatymiase. Et puis même quand ils mangent, le problème c'est que la nourriture dans l'estomac a besoin d'une certaine chaleur pour être digérée. Or la chaleur, on l'a vu, est dans le froid. Faute de chaleur, pas d'anatymiase, pas de sommeil, vous êtes insomniaque. Donc ça aussi, c'est un des symptômes de la maladie d'Amour. Une saignée bien pratiquée et bien dosée, normalement, doit guérir la maladie d'Amour. Puisque la maladie d'Amour, je vous l'ai dit, c'est l'échauffement. Je mange du corps, mais notamment du sang. Si vous retirez le sang, vous retirez la chaleur. Effectivement, si vous retirez le sang, c'est du froid. En même temps, on mange trop du sang. C'est du froid, donc on a les patients. Courant qui se développe pour dire que certes, l'amour est maladie, mais en même temps, paradoxalement, l'amour est le remède à la maladie d'amour. Alors, c'est un peu étrange, mais quand même si, parce que beaucoup de médecins extrêmement célèbres disent que les femmes très amoureuses ne doivent pas rester comme ça dans un état d'insatisfaction sexuelle, c'est mauvais. C'est mauvais, ça peut donner des choses très fâcheuses. Par exemple, Fétusa, femme de l'Antiquité romaine, la tradition rapporte que Fétusa est extrêmement amoureuse, son amant était parti, et du coup, son clitoris s'est allongé, elle a eu de la barbe au menton, et tout cela a été extrêmement fâcheux. Pourquoi ? Parce que, en fait, hommes et femmes sont faits selon le même modèle. Ce qui différencie biologiquement l'homme et la femme, c'est que l'homme a plus de chaleur que la femme. Donc, au fond, le fœtus, selon qu'il reçoit plus ou moins de chaleur, produit un homme ou une femme. Bon, la femme a moins de chaleur, évidemment. Car la chaleur, c'est l'énergie. Les femmes sont complètement apathiques, alors que les hommes sont pleins d'énergie. Mais, si une femme est amoureuse, donc échauffée, elle devient très chaude, donc presque comme un homme, avec la barbe au menton et le clitoris comme un pénis. On ne souhaite pas ce genre de choses. Donc il n'est pas bon que les femmes soient amoureuses comme ça, sans satisfaction sexuelle. Autre problème, tout aussi fâcheux sinon plus, c'est que si justement il n'y a pas satisfaction sexuelle, ça veut dire que la semence ne va pas être utilisée à bon escient. Je m'explique. Les femmes produisent de la semence, une semence qui est dans la matrice. Si cette semence n'est pas utilisée, si elle n'est pas fécondée, elle va pourrir, provoquant une démangeaison insupportable, ce qu'on nomme bien sûr l'hystérie. Et quand les femmes sont hystériques, elles se démangent, elles ont besoin qu'on soulage la matrice et le vagin, elles parlent de sexe tout le temps, ce qui est une manière, les pauvres, de se soulager en vain. Donc, il vaut mieux, dans ces cas-là, que la semence soit fécondée par le sperme, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas qu'il y ait une rencontre avec, on disait pas sperme à l'époque, bien sûr, avec la semence masculine. Parce que si jamais on marie, par exemple, la femme à un homme qu'elle n'aime pas, il n'y aura pas de chaleur, puisqu'elle n'est pas amoureuse. Et s'il n'y a pas de chaleur, le fœtus ne va pas croître en force et en beauté. Et au lieu d'avoir le bébé de 4 kilos que vous attendez, vous aurez un avorton. Donc il risque de mourir très vite ou rester infirme toute sa vie. Donc il faut suffisamment de chaleur et il faut par conséquent que la femme aime celui qui est censé féconder sa propre semence. Donc, ce n'est pas du tout parce qu'on souhaite favoriser les femmes, ce n'est pas du tout le souci, je vous assure. C'est parce qu'il faut que les avortons ne soient pas des avortons, et parce qu'il faut que les femmes ne viennent pas comme des hommes. Quoi. Alors, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que de plus en plus, la doxa médicale finit par dire que l'amour, c'est peut-être une maladie, mais c'est avant tout un remède. Et les médecins continueront, malgré tout, à condamner l'amour, mais ils sont de plus en plus marginaux à le faire. Ça devient même un combat d'arrière-garde. L'amour est depuis longtemps devenu la norme sociale, au XVIIe siècle, je l'ai dit, à fortiori au XVIIIe siècle, encore plus au XIXe siècle, à l'époque romantique, et même au XXe siècle. Et il y a encore quelques médecins qui font de la résistance. ils font de la résistance et ils disent la même chose qu'au XVIe siècle. Ils parlent d'érotomanie, comme on disait au XVIe siècle, que l'amour est érotomanie. Mais au XVIe siècle, on en accusait les poètes. On disait Ronsard, par exemple, et à la fois celui qui subit la maladie et la propage. Et on voyait la même chose des poètes surréalistes, notamment, qui parlent beaucoup d'amour. Alors, tel médecin dira, mais voyez, Breton, il écrit l'amour fou. Et il le dit, l'amour fou, donc il est fou. On le savait bien. Simplement, au lieu d'interpréter l'amour en termes physiologiques, c'est-à-dire l'estomac, l'anatignase, le foie, tout ça, on l'interprète en termes psychiatriques. Donc on cherche le lieu, si vous voulez, le siège de la maladie, dans les nerfs ou dans le cervelet. Mais enfin, c'est la même chose qui est stigmatisée par ces médecins relativement marginaux, mais qui continuent la bataille, et qui disent l'amour est maladie, c'est le retour manie, comme on disait au XVIe siècle. Simplement, ils inventent un nouveau terme. Ils inventent un nouveau terme pour désigner cette maladie. On ne dit plus tellement maladie d'amour, ça fait un peu vieux, ça fait un peu... Voilà. Et on va dire, comme synonyme d'érotomanie, un mot nouveau, appelé à une certaine fortune, et ce mot, je le donne en mille, c'est l'hétérosexualité. Effectivement, Jonathan Katz, l'historien, l'a montré, et il a manifesté, il a trouvé justement des citations très claires des dictionnaires médicaux de l'époque. Par exemple, 1901, le Dorland Medical Dictionary définit l'hétérosexualité en ces termes. Appétit sexuel anormal ou perverti pour l'autre sexe. 1923, par exemple, le New International Dictionary de Webster indique, pour le même terme, hétérosexualité, deux points, passion sexuelle morbide pour une personne du sexe opposé, etc., etc. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon ces médecins, il y a dans le monde trois catégories. Les gens normaux dont vous êtes, je l'espère, qui sont en couple marié, donc hommes et femmes, et qui ont des enfants. Donc ça, tout va bien. Ceux qui sont, deuxième catégorie, ceux qui sont attirés par le même sexe. Là, ça ne va pas du tout, ça s'appelle l'homosexualité. Et puis, troisième catégorie, ceux qui sont attirés par l'autre sexe, d'une manière exagérée. Et là aussi, c'est pas bon, c'est l'hétérosexualité. Mais parce que justement, ce que j'essaie de montrer, c'est comment la culture dominante, donc c'est des élites, s'est opposée à l'hétérosexualité qui était donc dominée. Donc de ce point de vue-là, au fond, ce que pense le peuple ne m'intéresse pas parce que je suis dans l'ordre du culturel, c'est-à-dire dans l'ordre de la représentation qui ne peut être pratiquée que par justement les élites. Et pour le peuple, puisqu'il était justement absent du champ de la représentation, dans la vie officielle, la vie publique officielle, pas dans la réalité, eh bien, il n'avait pas voix au chapitre pour s'exprimer pour ou contre la culture du couple homme-femme. Alors évidemment, plus on avance dans le temps et plus les choses changent, mais moi vraiment ce qui m'a importé, et je m'en explique d'ailleurs dans la conclusion et dans l'introduction aussi un peu, c'est de montrer comment la culture, au sens le plus élitiste du terme, la culture la plus officielle, la plus dominante, c'est opposé à l'hétérosexualité. C'est ce qui me semble paradoxal. Donc l'hétérosexualité aujourd'hui dominante a été longtemps dominée par la culture dominante. Le christianisme primitif, véritablement, n'a pas le souci de multiplier les âmes chrétiennes. Vraiment pas. Ça paraît un peu étrange, mais vraiment c'est comme ça. D'autant qu'on est là dans une perspective millénariste, enfin, non seulement pas millénariste, mais de fin des temps. C'est-à-dire, Jésus va revenir, il arrive très bientôt, alors... Le temps passe et plus on est impatient, si vous voulez, mais il va revenir. Donc, il ne s'agit pas tellement de multiplier les âmes chrétiennes, il s'agit d'être prêt quand il arrivera. Mais c'est vraiment cette perspective sexophobe, diraient certains, en tout cas du refus de la chair, qui fonde l'éthique religieuse. Alors, quand je dis l'éthique religieuse, je veux bien dire pour le magistère. Je ne parle pas des chrétiens qui faisaient autre chose, je ne sais pas quoi, mais on peut imaginer, mais vraiment, tout le discours répété, mais inlassablement pendant des siècles et des siècles, par tous les... Enfin, tout, oui, vraiment tous les saint Thomas, Saint-Pierre Damien, tout ce que vous voulez, c'est de dire, il faut renoncer à la chair, il faut vivre en célibataire, il faut que les sexes vivent séparés, nous devons consacrer notre chasteté à Dieu. Alors, nous sommes aujourd'hui étonnés parce que le souci de la population, le souci de la reproduction, reproduction est devenu un enjeu majeur des sociétés. Foucault place cela sous le signe du biopouvoir et il considère que c'est effectivement autour du XVIIIe siècle que cela devient un enjeu magistral. Après le XVIIIe siècle, à partir du XIXe, la force au XXe siècle, là, il y a une politique, en effet, axée sur la reproduction parce que on avait besoin d'une masse de militaires et dans les gouvernements démocrates comme dans les gouvernements fascistes, il y a eu une politique de biopouvoir accélérée, une politique des utérus pour qu'on puisse utiliser les femmes pour mettre à disposition de la guerre tous les soldats dont on avait besoin. Je l'ai dit, l'Église a une tradition que l'on pourrait juger sexophobe contre la chair. Or, la chair, c'est la femme, c'est la chair. Donc, la misogynie et la sexophobie se vont de pair. Donc, on est contre la chair et donc contre le couple homme-femme, parce que la femme arrache l'homme à sa vocation spirituelle. Or, au début des années 80, l'Église qui reste opposée à la chair se rend compte que le grand danger, finalement, c'est pas tellement le couple homme-femme, c'est peut-être le couple homme-homme et le couple femme-femme, au moment même où les mouvements gays et lesbiens prennent leur essor. Donc, ils se disent, mince alors, on croyait que le danger c'est le couple homme-femme, finalement il y a un danger plus grand, c'est le couple homme-homme ou femme-femme. Et donc, on change un peu son fusil d'épaule en se disant, face à ce danger extrême, il faut peut-être utiliser le couple homme-femme comme une espèce de contre-feu pour dire, finalement, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Donc, on va exhorter les fidèles à aller vers le mariage qui était un peu mal vu quand même, disons, s'ils vont dans le vrai mariage, au moins, on évitera qu'ils aillent dans une voie beaucoup plus pernicieuse et beaucoup plus pécamineuse. Et donc, en effet, la pastorale et la théologie, pour le coup, ont été un peu réévaluées en faveur du mariage et du couple hétérosexuel en disant, c'est le rempart, peut-être le dernier, contre l'homosexualité. Donc il est certain qu'il y a eu effectivement dans les textes de Jean-Paul II et de ceux de Ratzinger, parce que la plupart des encycliques morales de Jean-Paul II étaient déjà signées par Ratzinger, l'actuel Benoît XVI, il y a donc eu effectivement un rôle plus important accordé au mariage, c'était déjà un peu le cas avant, mais a fortiori au mariage et au couple. Voilà. L'avènement de la courtoisie, du couple homme-femme, c'est aussi l'avènement de la femme. L'homme était déjà présent, mais la femme était absente de la scène culturelle. Elle fait en effet une irruption fracassante. Mais vous avez parfaitement dit, c'est l'avènement du féminin, l'avènement de la femme, et non pas l'avènement des femmes. Car, à bien des égards, et Duby le dit à juste titre, la courtoisie est un leurre. La femme devient objet d'amour, c'est-à-dire qu'elle devient objet comme elle l'était avant. D'ailleurs, ce n'est pas totalement un hasard, je pense, si l'époque de la courtoisie, donc de l'idéalisation de la femme, et pas des femmes, correspond avec l'époque du début de la chasse aux sorcières. Et au XVIe siècle, grande époque de culture galante, la Pléiade et tout ça, grande recrudescence de la chasse aux sorcières. 19e siècle, grande époque de romantisme, donc la femme, bon, renforcement absolu des normes sexistes. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, en tout cas il y a une corrélation au minimum, et il me semble que très souvent il y a dans cette tradition une promotion de la femme avec un grand F, mais en même temps une contrainte supplémentaire sur les femmes, et du coup en effet il ne faudrait pas s'illusionner sur le statut des femmes dans ces conditions, c'est-à-dire dans les sociétés homosociales. Homosocial, c'est-à-dire où les hommes restent entre eux, c'est pas du tout homosexuel. Il n'y a pas plus de sodomie, je suppose, à cette époque-là qu'après. Donc dans les sociétés homosociales, la société féodale, où les hommes restent entre eux, les femmes sont marginalisées, elles sont dominées, bien entendu. Mais c'est aussi vrai dans les époques ultérieures, où pourtant on célèbre la femme. C'est-à-dire que les femmes sont assignées à résidence symbolique, on leur enjoint d'être conformes à l'idéal qu'on veut avoir d'elles, et si elles ne respectent pas cet idéal, à ce moment-là, elles sont considérées comme des sorcières ou comme des putains.
voilà, c'était une conférence de Louis Georgetin. Alors pour continuer, on va repartir de sa conclusion féministe, et on va continuer aussi sur pour continuer de défoncer, démonter le déterminisme biologique. Donc je vais lire un texte de Alice Schwarzer. Et c'est pareil, c'est encore une brochure. Et ce texte, ça s'appelle « Ce qu'il y a de politique dans la contrainte à l'hétérosexualité ». Mais je vais en lire juste un petit bout. Dans une société où la procréation n'est plus le but premier des rapports sexuels, l'homosexualité devrait être aussi naturelle à l'épanouissement des êtres que l'hétérosexualité ou l'auto-érotisme. Et s'il n'en est pas ainsi, c'est pour des raisons politiques. Car enfin, seule une hétérosexualité promue au rang de dogme peut assurer aux hommes le monopole sexuel sous prétexte de la petite différence. Ainsi se gouverne le monde des hommes où les femmes se retrouvent entièrement dépendantes, exploitées sans merci, dans leur vie privée comme partout ailleurs. L'amour est, est la clé de cette dépendance. C'est au nom de l'amour que les femmes lavent les chemises des hommes, qu'elles élèvent seules leurs enfants, qu'elles consolent et encouragent leur mari dans ses problèmes professionnels. Leur abnégation finit par les rendre schizophrènes. Comme Rita, elle, devenue schizophrène une fois que son mari l'a quittée. Sa seule raison d'être. À la question « Mais pourquoi s'est-elle tant dévouée pour lui ?» elle répond « Par amour. » C'est au nom de l'amour que les femmes sont exploitées. Dans ces conditions, la sexualité n'est plus une affaire privée mais politique. Quant à l'hétérosexualité exclusive, c'est l'instrument décisif du pouvoir des hommes dans la lutte des sexes. Contre cette situation, on peut et on doit affirmer qu'il y a une alternative. Quand l'amour des femmes ne sera plus un privilège naturel des hommes, il faudra qu'ils fassent un effort. Et pour tenir le coup, il faudra qu'ils révisent leur position. Mais jouer les simples bouche-trou, ça ne marche plus. C'est pour cette seule et unique raison qu'ils se cramponnent tant à leurs petites différences. Donc ça, c'est un texte d'Alice Schwarzer.
Et on va lire un peu quelques autres phrases de Louis Georgetin qu'on a entendues pendant sa conférence. Et du coup, c'est un texte sur sociobiologie et différentialisme.
Voilà, ça nous permet de faire la transition avec des concepts beaucoup plus tournés autour de la biologie. Donc, le recours à la biologie pour expliquer le social et le subjectif s'enracine dans le triomphe du modèle explicatif médical au cours du XIXe siècle. Il accompagne les progrès des techniques exploratoire du corps pour finalement inscrire des comportements complexes au cœur des plus infimes cellules. Il y a deux siècles, il s'agissait de justifier la complémentarité des sexes et leur place sociale respective, de lutter contre la dégénérescence afin de garantir la force de la nation. Dans le contexte actuel de tolérance institutionnelle à l'égard de l'homosexualité, on peut se demander à quoi sert de naturaliser les différences, sinon à délimiter très nettement des contours identitaires. Donc le résultat de ça, deux types sexuels incommensurables prévenant toute réflexion sur la labilité des affects et des désirs. Donc je veux bien traduire vite fait cette phrase. En gros, c'est dire que ces deux types sexuels sont enracinés très fort dans des cases et qui continuent à se faire dans l'ordre de l'inné plus que dans un terme de choix. Si le discours le plus politiquement correct tend à symétriser les positions en parlant de déterminisme dans les deux cas, force est de constater que l'homosexualité est le plus souvent désignée comme différente face à un référent neutre. Rien d'étonnant à cela si l'on considère que cette approche découle directement de la recherche des causes de l'homosexualité. D'une manière générale, le retour à l'inné pour expliquer l'aptitude ou l'échec des individus à se conformer aux attentes d'une société représente un formidable bond en arrière.
Donc voilà, on va revenir tout à l'heure sur un peu des idées reçues sur justement ce déterminisme biologique. En attendant, on va passer une chanson de Rocco Catastrophe, Your Girlfriend. Rocco Catastrophe, qui est un trans états-unien qui fait du hip-hop. Et là, il parle un peu comme la chanson tout à l'heure de Candy Ken. En fait, il dit aux mecs hétéros qui l'ont regardé avec mépris quand à l'époque il était une gouine. Il leur dit, de toute façon, je vais baiser avec ta meuf parce qu'elle est en train de me regarder. Et que voilà, qu'il y a un truc qui se passe.
this easy. You gotta believe me. You never knew it could be this good. You never knew it could look this.
Well, I'm gonna take ya.
Good. I'm gonna take your girlfriend.
Because she's looking at me. She keeps on looking at me.
I'm gonna take your girlfriend. Whoa, 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 whoa. I'm gonna take your girlfriend.
Because she's looking at me.
She keeps on looking at me.
I'm gonna take your girlfriend. Yeah.
You look at me, you think, yeah, right. That guy's probably had a lot to drink tonight. He couldn't take flight if he was a right brother, but not tonight, mother. Cause I got more mojo than Michael does nose job. No joke, even though I smoke, I'm no slowpoke. I grow hope from helplessness. I used to see selfish shit and squash it. Now I'm a mosh pit, throw a posh fit, toss it out the window. Smoke indo, never win though in Vegas. But I may just get lucky with your girl tonight. This world's alright, I'm plucky with an app. Appetite for destruction.
What?
What? You need another introduction? Catastrophe has to be cuter than Justin. Plus when it comes to busting, I got the ladies lusting, the parents cussing. I'm guzzling my troubles in a 2 liter of bubble and boiling point. I'm past this toiling joint. I like fire like the toilet boys. But I'm clean, not mean, like Charlie Sheen. So 1990, you might just find me heart throbbing, my Christopher Robin, looking face to every girl mobbing the place. You chase tail, play pass fail. I just stand and wink and ask the ladies what you think. Watch them blink and rub their eyes. Watch other guys try to rub on thighs. Feeble, I give them butterflies, make them utter size, treat them equal. I'm not like other guys, I'm not evil, conceited or real stupid. I don't need Cupid, I got good looks and wit on my side. You ain't got shit but your ride, and you could only fit one chick inside. I got a station wagon, so gag on that, bitch. I'm gonna take your girlfriend, because she's looking at me, she keeps on looking at me. I'm gonna take your girlfriend,
I'm gonna take
I'm gonna take your girlfriend,
because she's looking at me,
she keeps on looking at me.
I'm gonna take your girlfriend.
Like him, but I work the middle like Moni and make him honier than 10 men. Cause they don't wanna ride the pony like genuine or wine. Cause I'm fine like F-I-N-E, but don't you find me crazy jealous, fellas. You could do well, just tell this well. Miss how you felt bliss when you first kissed. Now you burst just from thinking about her. And don't doubt her or pout or make her feel like an idiot. Cause you don't deal with the little shit and she'll get a little bit restless. Want the best just cause I'm 5'3" doesn't mean your girl won't do me, baby.
I'm gonna take your girlfriend,
because she's looking at me, she keeps on looking at me.
I'm gonna take your girlfriend. Whoa, whoa, whoa. I'm gonna take your girlfriend,
because she's looking at me,
she keeps on looking at me.
I'm gonna take your girlfriend.
I'm gonna tell her she looks good.
Donc, on est toujours sur Radio Canu.
Dans l'émission de La Déprave.
Sur l'amour et l'hétérosexualité. Donc là, on va continuer autour de déterminisme biologique et des phrases qu'on entend souvent et qu'on a aussi dans la tête.
Alors, on va commencer par, justement, le cerveau masculin et le cerveau féminin. Donc, c'est de notoriété publique qu'une femme a un cerveau multitâche parce qu'elle a une interconnexion beaucoup plus développée entre les deux hémisphères cérébraux. Cette interconnexion est moindre chez l'homme qui rend son cerveau à lui monotâche. En gros, ça explique pourquoi la femme peut téléphoner tout en s'occupant du bébé et en préparant le dîner, pendant que le mec se concentre pour régler la parabole, pour pouvoir regarder la télé. C'est malin. Scientifiquement, on ne peut en fait pas mettre en évidence, on ne peut mettre en évidence aucune différence liée au sexe biologique des personnes, puisque les différences entre individus sur les cerveaux sont infiniment plus grandes. Cependant, aussi bien dans les manuels scolaires que dans les revues scientifiques les plus renommées, ces idées reçues nous sont présentées comme des vérités, contribuant à asseoir un modèle sexisme. Et c'est bien là leur force, utiliser la science comme leur outil de propagande, aussi bien que les manuels scolaires, pour donc continuer à propager un modèle sexiste.
Et une idée encore bien plus prégnante. Parce qu'encore, on pourrait dire oui, non, mais le cerveau, les cerveaux, c'est à égalité. Oui, mais les hormones. Du coup, ce déterminisme biologique permet une fois encore de schématiser des comportements. Donc, il est vraiment courant d'entendre que nos hormones modifient nos comportements. Par exemple, les homos, les violeurs, les gouines ont un taux de testo plus développé que la moyenne. Ou les FTM qui prennent de la testo ont des comportements plus virils. Ah, c'est vraiment facile d'utiliser des éléments biologiques pour justifier des comportements sociaux. L'homme, c'est la testo, alors dès qu'un comportement va plus dans une représentation masculine, on devient plus viril. Donc c'est bien une affaire de testo, c'est fou quoi. Rappelons que tout le monde a de la testo dans son organisme avec des taux plus ou moins élevés. Les hormones modifient des caractéristiques physiques et non des traits de comportement. Il faudra le dire et le répéter, et le dire et le répéter.
Moi ça fait à peu près un an et demi que je prends de la testo et je crois que ça va en fait. Je sais toujours me servir d'un balai et d'une éponge.
Et sinon, pour rester dans le même truc, c'est t'énerve pas, t'as tes règles ou quoi, t'as tes hormones qui te travaillent. Donc c'est exactement du même truc. Et donc en gros, une hémorragie, ça fatigue. Alors, en fonction de qui on est, on peut être plus susceptible. Mais de là à dire que c'est lié aux hormones,
faut pas exagérer.
Voilà. Ensuite, utiliser des arguments biologisants pour expliquer des comportements permet aux dirigeants d'avoir une rhétorique simple et abusive pour stigmatiser des gens et des populations. C'est bien à ça que ça sert. Après le coup des hormones, on nous sert fréquemment celui de la génétique, le gène de l'homosexualité ou du délinquant. De nombreuses études pseudo-scientifiques tentent désespérément de mettre la main sur ces erreurs génétiques afin de les extraire des génomes et rendre les gens normaux, bien éduqués dans la tradition judéo-chrétienne. Et c'est bien ça qui nous fait frémir là-dedans. Leur fin en soi, un monde blanc, validiste, hétéro, dans des rapports de couple exclusifs. Malheureusement, ces idées sont bien plus ancrées et le gouvernement a mis en place des outils pour ficher les mômes à partir de 3 ans.
Voilà, et pour en revenir à notre histoire de Saint-Valentin, on entend souvent la phrase « Oh, j'ai un atome crochu avec elle ou avec lui, je suis sûr qu'on a tout pour se compléter, etc. etc. » Et des études scientifiques ont pu prouver que les personnes dont on tombé amoureux avait un système immunitaire compatible avec le nôtre, c'est-à-dire était le plus différent possible, permettant ainsi d'avoir des descendants robustes. Ça alors ! Et en fait, c'est souvent que ces mauvaises études scientifiques se basent sur l'étude comportementale d'animaux, et notamment des souris et des rats, pour ensuite, miraculeusement, le prouver sur les humains. Dans ces études, le problème, c'est qu'ils oublient l'importance du social chez l'espèce humaine notamment, c'est-à-dire la culture, la classe sociale, les habitudes, les attraits physiques, etc., en tentant d'en faire une histoire de molécules. Parce qu'on ne nous dit pas, par exemple, si les modèles de beauté que cette société produit ont également des systèmes immunitaires infaillibles, on peut douter des conclusions des études. Bref, plein de manières pour justifier le monde des dominants. Tu veux finir sur...
Ah oui, en 98, il y a eu une étude. Et du coup, ils ont décelé le gène de la fidélité. Saint-Valentin, fidélité. Et oui, nous avons des gènes de la fidélité. Donc leur expérience se basait aussi sur des rats. Et en fonction de leur monogamie et polygamie. Ils l'ont élargi sur des humains. Et bien évidemment, ils ont découvert le gène de la fidélité. Ah, et si on regarde bien, c'est à la même époque qu'il y a eu l'histoire Clinton-Monica Lewinsky... aux États-Unis. Du coup, c'est important de restituer les choses dans leur contexte. Quand sous couvert de science, on tente de nous faire croire tout ce qui les arrange pour leur monde de dominants de merde.
Voilà,
il est déjà 6h.
C'est ça, il est déjà 6h. On va très rapidement finir sur les rendez-vous pour les semaines
ouais,
à venir.
On voulait faire une petite chanson, mais c'est trop tard.
On la passera la prochaine fois, promis.
Du coup, on a 2 rendez-vous à vous proposer.
Donc à Toulouse, du 23 au 28 février, se passera le festival de films Transpédéguine DIY XXYZ et c'est la dernière édition, du coup ça vaut le coup de venir. Si vous voulez des renseignements, vous inscrire pour l'hébergement, etc., c'est sur xxyz002@yahoo.fr. Il y aura des projections, des discussions, des soirées, des ateliers vidéo, bref, ça sera génial.
Et demain à Lyon, samedi 14 février, soir de la Saint-Valentin, il y a une soirée anti-Saint-Valentin au Coco Charnel, donc 83 avenue La Cassagne. Donc c'est un squat queer à Lyon. Et donc si tu te sens transpédéguine et féministe et que tu ne veux pas faire un dîner aux chandelles, et ben cette soirée est pour toi. Et il y aura un groupe de hip-hop.
Voilà, bonne soirée et à bientôt.
Ciao.